Bien, nous pouvons reprendre. Le deuxième texte que je voulais évoquer, dans lequel il y a comme une mise en abîme dans une pièce de théâtre d'une autre représentation qui est celle donnée par des marionnettes, et cette comédie de Ben Jonson, La foire de la Saint-Barthélemy, qui maintenant est facilement accessible en traduction française dans l'édition, le volume 2 de l'édition du Théâtre élisabétain, qui est un ensemble de deux tomes publiés par la Pléiade, une édition publiée sous la direction de Lynn Cotteny, François Larocque et Jean-Marie Maguin. Alors cette pièce, comme je le disais, représentée en 1614, imprimée en 1631, dans son dernier acte, met en scène une représentation d'un théâtre de marionnettes qui est une des réjouissances importantes de la foire de la Saint-Barthélemy à Londres. Et donc on peut avoir une idée, même s'il y a décalage chronologique, de ce théâtre de marionnettes pour la foire. Le théâtre est celui d'un personnage de la pièce qui s'appelle Leatherhead, traduit dans la traduction de M. Wilkin comme nez de cuir. En fait, ce serait tête de cuir, c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte d'homologie entre les personnages de cuir des marionnettes et son propre nom. Et on présente au début de ce cinquième acte le répertoire de ce théâtre de marionnettes que l'on appelle en anglais les marionnettes et leur spectacle motion, avec cette remarque que fait Leatherhead, ou nez de cuir, et qui d'ailleurs dans ce dernier acte porte le nom de Lantern, la lanterne, celui qui éclaire. Quel spectacle de marionnette, moi, lanterne née de cuir, Lantern Leatherhead, ai-je monté en montant depuis la mort de Pod, mon maître, qui était l'ancien propriétaire du théâtre. Jérusalem était quelque chose de majestueux, et il en était de même de Ninive, de la cité de Norwich, de Sodome et Gomorre, avec la révolte des apprentis et la mise à sac des bordels le jour du Mardi Gras. Mais le complot des poudres, ça rapportait des sous. J'ai fait jusqu'à 9 représentations par après-midi pour des spectateurs qui payaient 18 ou 20 pence. Les productions qui traitent de ce qui se passe chez nous se révèlent toujours les meilleures, elles sont si faciles à comprendre et si familières. Aujourd'hui, les auteurs mettent trop de choses savantes dans leurs pièces, et c'est cela, je crois, qui gâche tout. Et donc on voit que le répertoire de ce théâtre de marionnettes traite fondamentalement est un répertoire qui est lié à des histoires bibliques. Trois des titres mentionnés sont des histoires empruntées à la Bible, et aussi à des pièces d'actualité, puisque cette pièce qui lui a rapporté tant d'argent, Le complot des poudres, est une allusion directe à un complot politique, un complot catholique mené contre Jacques Ier, qui devait faire sauter le Parlement, et qui date de 1605. C'est pour ça qu'il dit que l'actualité peut attirer l'attention. Alors, le jeu de Ben Jonson, très complexe dans cette pièce, d'une interprétation très délicate et très multiple, la pièce qui est représentée à l'intérieur de la pièce est une parodie du grand poème de Marlowe, Héros et Léandre, un texte qui avait été publié en 1598 et qui est croisé dans la perspective dans la pièce de Ben Jonson, avec une autre pièce qui portait sur l'amitié entre Damon et Pythias, qui est une pièce de 1571. Voilà comment est présentée cette pièce, puisque sur la scène du théâtre est représentée la foire et la scène du théâtre des marionnettes. Et un des personnages, Cox, traduit comme Cogbin, entre en scène et voit un théâtre de marionnettes. Qu'est-ce qu'on joue ? Il lit le programme, c'est-à-dire « he reads the bill ». Alors, le programme dit « L'ancienne histoire moderne de Héros et Léandre, parfois appelée la pierre de touche de l'amour véritable, avec la mise à l'épreuve tout aussi véritable de l'amitié entre Damon et Pythias, deux fidèles amis du Bankside. » Bankside, c'est la rive de la Tamise sur laquelle se trouvent les théâtres londoniens. Joli programme, ma foi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et donc, on voit que cette pièce est cette parodie, appropriation libre à la fois du grand poème de Marlowe et d'une pièce très ancienne des années 1570. Alors, que signifie pour Ben Jonson de mettre en scène ce théâtre de marionnettes dans le dernier acte de la foire de la Saint-Barthélemy? Il y a d'abord un parallèle systématique qui est opéré entre les marionnettes et les comédiens, et dans un sens aux dépens des comédiens, dans la mesure où les marionnettes sont aussi bonnes que les comédiens sans en avoir les inconvénients. C'est toute une discussion qui est menée à la troisième scène lorsque ce coq, qui va être un des spectateurs du spectacle, voit arriver les marionnettes. Quoi ? Est-ce que les acteurs vivent dans des paniers, puisqu'on apporte les marionnettes dans les paniers ? C'est ce que fait Leatherhead, le marionnettiste. Alors il lui dit, oui, ils sont effectivement dans des paniers, monsieur, c'est une race de petits comédiens, Cogman. Ce sont des apprentis acteurs, c'est vrai, vous appelez cela des comédiens ? Ce sont des acteurs, monsieur, des acteurs aussi bons que d'autres, et sur lesquels il n'y a rien à redire pour les spectacles de mime. En fait, je suis leur porte-parole à tous. Et on voit qu'on a là plusieurs indications intéressantes, parce que la comparaison se fait entre ces marionnettes qui ne parlent pas elles-mêmes et les acteurs de ce qui a été traduit ici comme les acteurs pour les spectacles de mime. En fait, le texte anglais fait référence à ce qu'on appelle « dumb shows », des shows muets, et qui sont non seulement des spectacles de mime, mais qui étaient dans des pièces, tragédies ou comédies, des moments dans lesquels il y avait la représentation de la même intrigue que celle qui était nourrissait les dialogues sous la forme d'un spectacle de pantomime. Peut-être vous vous souvenez, dans Hamlet, c'est ainsi que commence la représentation de la pièce dans la pièce, c'est-à-dire qu'on a finalement une pièce dans la pièce dans la pièce, puisque la cour d'Elseneur est convoquée à regarder une pièce qui s'appelle « Le meurtre de Gonzague », dont Hamlet pense que par son intrigue, elle est très proche de ce qui est advenu, c'est-à-dire l'assassinat de son père par le frère du père et le mariage de sa mère avec ce beau-frère assassin. Et donc, du coup, ce qui est donné à voir, c'est ce meurtre de Gonzague qui va être joué par des acteurs, mais avant que commence le dialogue entre les acteurs qui représentent le meurtre de Gonzague, qui doit troubler l'assassin et le faire découvrir son crime, il y a un dumb show, c'est-à-dire que la même histoire est résumée à travers un spectacle de pantomime. Et il y a de très nombreuses pièces élisabéthaines qui comportent cette sorte de double de la pièce en dialogue dans une représentation de pantomime. Et c'est ce à quoi fait allusion ici Leatherhead sur la capacité de cette marionnette d'être aussi bonne, ces petits acteurs, que les acteurs des dumb shows, que les acteurs de ces pantomimes inscrites à l'intérieur des tragédies ou des comédies. Et d'autre part, il dit « I am the mouth of them all », je suis la bouche de tous, c'est-à-dire que là encore, comme dans la description que j'évoquais Tonelli, il y a le fait que le marionnettiste donne sa voix à tous les personnages qui sont représentés par les marionnettes qu'il est en train, seul ou avec des aides, de faire se mouvoir. Et un peu plus loin, on continue la comparaison, et là c'est une satire de Ben Jonson par rapport au milieu des comédiens, qui prend son sens dans la mesure où Ben Jonson appartient à cette famille des auteurs dramatiques qui se pensent comme des auteurs, comme des poètes, et qui donc du coup considèrent que finalement la transmission de leurs textes par les comédiens est peut-être une forme de dégradation. Donc il y a une sorte de vision plutôt pessimiste et critique du monde des comédiens qui sont nécessaires pour transmettre le texte de théâtre, mais qui toujours peuvent l'endommager ou qui toujours peuvent lui faire tort. Alors, Cox continue, « Ah oui, c'est une troupe de gens bien élevés, et je les aime pour cela, en parlant des marionnettes dans leur panier. Ils ne ricanent pas, ils ne se moquent pas de tout, et ne racontent pas de blagues comme le font les grands acteurs. Et en plus, il n'y a pas pour les régaler ou pour les enivrer de frais aussi importants que pour les autres, étant donné leur petite taille. » Et donc, il y a cette critique de la sociabilité joyeuse, festive, des comédiens, et à opposer à eux, l'expression qu'emploie dans le texte original Cogburn Cox, c'est « civil company », ils sont une compagnie civile, ces petits acteurs de marionnettes. Donc il y a ce premier type de parallèle. Il y a un deuxième type de parallèle qui intéresse Ben Jonson, je pense, dans ce dernier acte de la foire de la Saint-Barthélemy, c'est la tension entre le spectacle populaire, qui est un spectacle carnavalesque, burlesque, diminué, et d'autre part, le sublime de la création poétique, illustré ici par le grand poème de Marlowe, Hero and Leander, et le sublime aussi d'une écriture poétique et savante du théâtre. Et le parallèle s'établit lorsque Cox, après avoir célébré cette compagnie civile et paisible et économique des petits acteurs marionnettes, demande à Lethered, mais suivez-vous finalement fidèlement le texte imprimé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va entendre le texte de Marlowe tel qu'il a été dans le printed book ? Et Ned Quire lui répond, pas du tout, monsieur. Ah, non ? Alors comment faites-vous ? Nous avons une meilleure technique, monsieur. Le texte est trop érudit, trop poétique pour notre public. Est-ce que nos spectateurs savent ce qu'est l'Hellespont ? Connaissent-ils coupables d'avoir versé le sang de l'amour sincère ? Savent-ils ce qu'est Abydos ? Savent-ils ce que sont les autres auteurs de Sestos ? C'est-à-dire des citations qui viennent toutes des premiers vers du poème de Marlowe. « Tu as raison, je ne le sais pas moi-même, dit-il. » Non, alors j'ai demandé à M. Nigaudin, qui est la traduction de « Little Wit », monsieur de petit esprit, de ramener le texte à un niveau plus familier à notre public. « Comment cela, je t'en prie, monsieur Little Wit, Nigaudin ?» Il est ravi, alors répond celui-ci, d'en faire toute une histoire, monsieur. Mais cela ne vaut pas la peine, je vous assure. Je me suis contenté de rendre les choses plus faciles à comprendre, de les adapter à notre temps. Monsieur, c'est tout. Par exemple, pour l'Hellespont, j'évoque notre Tamise. Et puis de Léon, je fais un fils de teinturier qui habite près de Puddle Wharf. Et Héro devient une fille du Bankside traversant le fleuve un matin pour se rendre à Old Fish Street. Léandre l'observe accostant à Trickster's et il en tombe amoureux. Alors j'introduis Cupidon qui s'est métamorphosé en tavernier et il rend Héro amoureuse avec une pinte de sherry. Et il y a d'autres jolis passages sur l'amitié qui vous enchanteront, monsieur. Et vous raviront l'esprit. C'est-à-dire ici que là, ce qui est d'un côté la poésie, le sublime ou l'érudition, est réduit pour ce public plus populaire et donc est rendu easy, facile et rendu moderne avec ce transfert de l'antiquité grecque dans le monde londonien familier aux spectateurs. Et de fait, lorsque la pièce se déroule, c'est-à-dire les amours de Léandre et Héro, que le langage employé est un langage vulgaire, est un langage souvent scatologique, est un langage ordurier, que les accusations d'être le maquereau d'une jeune femme fusent de part et d'autre, ce qui fait que l'on a là une sorte de repoussoir de ce qui, pour Jonson, devrait être le théâtre attribué à la fois, mis dans les mains d'acteurs qui le trahissent, et d'autre part, souvent rabaissé, en particulier dans cette forme du théâtre des marionnettes, mais pas seulement, à un contenu vulgaire et ordurier qui fait bon marché, ou plutôt bon profit, des œuvres dramatique ou poétique de la, du corpus littéraire. Là, il est assez difficile de savoir ce que Ben Jonson voulait que l'on montre en termes de dispositif du théâtre des marionnettes. Ce qui est clair, c'est que Lethered fait la voix de tous les personnages, mais qu'il joue aussi avec les marionnettes. C'est-à-dire que dans certaines scènes, comme dans la Commedia dell'arte, le marionnettiste est partie prenante. Et par exemple, il est battu par certaines des marionnettes qui se battent entre elles. Et c'est ce qui rend difficile d'imaginer le dispositif technique puisque, ou scénographique, puisque le marionnettiste est visible pour les spectateurs en même temps que le sont ces marionnettes, puisqu'il dialogue avec elles et puisqu'il s'affronte à elles. On peut donc supposer que ces marionnettes sont de grande taille, sont mues et par lui et par deux de ses assistants qui sont présents comme des personnages dans la pièce et qui permettent ce jeu où se mêlent les acteurs de chair et d'os, en particulier lui, et d'autre part, les figures des marionnettes. Le spectacle est finalement interrompu par l'arrivée de Buzzy, qui incarne un puritain, qui incarnerait donc du coup ce monde, l'hostilité au théâtre, qui prend les marionnettes pour des idoles et qui, d'autre part, attaque l'immoralité du spectacle, en particulier en faisant référence à quelque chose qui est très spécifique à l'Angleterre, qui est le fait que dans le Deutéronome, ça c'est pas spécifique à l'Angleterre, on condamne les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes. Or, comme vous le savez, jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la Révolution, tous les rôles, y compris féminins, sont tenus dans les troupes anglaise par des hommes, et en particulier par des jeunes hommes. Et il y a ce moment intéressant qui, là aussi, pose la question du dispositif scénographique, ou donc traduit comme « dévot », puisqu'il s'appelle dans la pièce « Zeal Buzzy », celui qui a le zèle, et en l'occurrence le zèle religieux. Oui, le principal reproche que je vous fais est que vous êtes une abomination, car l'homme chez vous porte le vêtement de la femme et la femme celui de l'homme. Ce qui est là un écart par rapport aux troupes de théâtre, puisque seule la première des hypothèses existe. Ce sont des jeunes hommes ou des hommes qui sont vêtus en femmes, alors qu'évidemment la condamnation biblique dans le Deutéronome porte sur l'échange des vêtements réciproques. Alors, ce dialogue a été entamé non seulement entre le puritain et le marionnettiste, mais entre le puritain et une marionnette, qui est la marionnette de Denis, qui vient se mêler à l'histoire de Damon et Pythias, qui est un ancien tyran de Syracuse, qui a été chassé et qui est devenu un maître d'école et qui donc devient une figure un peu de savant. Et c'est à cette marionnette que l'on charge de la défense du théâtre contre les critiques du puritain. Et la marionnette de Denis lui dit « Mais vous mentez abominablement. C'est votre éternel reproche, éculé contre les acteurs. Mais il ne tient pas avec les marionnettes, car nous n'avons ni homme ni femme parmi nous. Et ça, tu peux le voir, si tu veux, en zélateur diabolique et obtus que tu es. » Et l'indication scénique, c'est « La marionnette soulève son vêtement. » Et donc, il montre qu'il n'y a pas de question qui puisse être condamnée par le Deutéronome dans ce cas-là, mais qui laisse donc supposer, à l'inverse de certains commentateurs, qui imaginent que les marionnettes sont forcément des marionnettes mues par des marionnettistes qui les tiennent au bout de leurs mains. Et alors donc, à ce moment-là, le soulèvement du vêtement montrerait la partie du bras du marionnettiste. Je crois que ça ne tient absolument pas. Le fait ici, ce sont des marionnettes qui sont mues par tiges et par fils, qui sont sans doute de grande taille pour pouvoir être dans ce rapport de dialogue ou d'affrontement avec le marionnettiste lui-même, et qui donc, par un artifice, peuvent remonter leur vêtement et montrer qu'il n'y a ni homme ni femme dans ce théâtre. Alors on est là, et je termine avec ça, dans un répertoire qui justement n'est pas celui des marionnettes du théâtre du Beru Altu, comme on l'a vu, tourné vers un théâtre qui est stable et qui n'est pas ce théâtre itinérant du retable de Maître Pierre ou de la troupe de petits acteurs de Leatherhead alias Lantern, et qui, d'autre part, est un théâtre qui s'adresse à un public bourgeois, citadin, pour partie aristocratique, et non pas au public de la foire, comme dans la Saint-Barthélemy, ou bien au public des clients de l'auberge, comme dans le cas de Maese Pedro. Mais évidemment, cette association entre théâtre de marionnettes, culture populaire, théâtre de foire, est puissante et elle est mise en place dès les textes des XVIe, XVIIe siècles. Le dernier exemple que je voudrais citer, c'est le cas dans une des comédies de Shakespeare, The Winter's Tale, le conte d'hiver, la figure du colporteur Autolycus, qui est colporteur de bijoux, colporteur de tissus et de pièces d'étoffe, colporteur de ballades, et qui, dans le début de son apparition, au quatrième acte du conte d'hiver, narre une autobiographie déguisée et qu'il attribue à un voleur qui lui aurait dépouillé, ceci afin de susciter la pitié du clown et de lui dérober sa propre bourse. Et dans cette histoire de vie qu'il raconte, qui serait la vie de son voleur, mais qui est en fait, on peut le penser, sa propre vie, Autolycus commence ainsi, sévice. C'est ce que je voulais dire, monsieur, je connais bien cet homme, donc son supposé voleur. Mais en fait, c'est lui-même. Depuis, il a été montreur de singes, puis recors, c'est-à-dire officier de justice, huissier, puis il s'est procuré des marionnettes et il s'est promené avec un spectacle du fils prodigue et il s'est marié avec la femme d'un rétameur. On voit donc que dans cette carrière de Picaro à l'anglaise, Autolycus s'attribue ou se donne des états successifs et un peu comme Maese Pedro, un rapport avec un singe ici qui n'est pas un singe qui devine, mais un singe dont on montre les tours, et puis d'autre part, ce motion, ce théâtre de marionnettes sur lequel il a représenté une parabole biblique, celle du fils prodigue qu'on rencontre dans l'évangile de Luc. Donc, on a ici maintenant l'arrière-fond de Don Quichotte de 1733, à la fois dans la situation précise du théâtre à Lisbonne au début du XVIIIe siècle, avec ce vide occupé par les marionnettes du Beru Altu, et d'autre part, avec cet arrière-fond qui est l'importance du théâtre de marionnettes dans des modalités différentes, dans l'ensemble des pays européens, et avec une grande tension ou différence ou contraste entre le théâtre de marionnettes lié à la culture populaire et festive, et en particulier au théâtre de la foire, et d'autre part, le théâtre des marionnettes pour des publics aristocratiques ou bourgeois, dans des théâtres privés ou des théâtres publics, est capable de donner à entendre et à voir un répertoire qui s'appuie sur la littérature, entre guillemets, en particulier sur des adaptations de pièces déjà là, ou d'œuvres déjà écrites, comme le Quichotte. Alors, revenons en 1733 et à l'auteur de cette œuvre. La première attribution de cette Vida do Grande Don Quichotte de la Mancha à Antonio José da Silva apparaît en 1741, c'est-à-dire 2 années après la mort du dramaturge, dans une de ses bibliothèques, c'est-à-dire répertoire d'auteurs dans une langue donnée, qui depuis la fin du XVIe se sont multipliées. Il s'agit ici de la Bibliotheca Lusitana, de Diego Barbosa Machado, qui, dans son premier tome, page 303, indique, c'est ordre alphabétique des auteurs, et ordre alphabétique qui se maintient longuement dans les pays espagnols ou portugais, c'est-à-dire ordre alphabétique des prénoms. Donc on rencontre Antonio José da Silva, natural de Rio de Janeiro, qui est né à Rio de Janeiro, fils de João Mendes da Silva, avocat dans cette cour, c'est-à-dire avocat à Lisbonne, et de Laurença Coutinho. Il a étudié le droit civil à l'université de Coimbra, d'où, passant à Lisbonne, il a exercé l'office d'avocat. Et la phrase importante, « Tive genio para a poesia comica », il avait du génie pour la poésie comique. Et du coup, la Biblioteca Lusitana mentionne parmi ces comédiens qui, dit le texte, furent représentés avec applauso, l'applaudissement des spectateurs, six œuvres sont mentionnées, trois avec une date de leur impression, le labyrinthe de Crète, les As variedades de Proteu et la guerre de l'Alecrim et la Mangerona, qui sont les pièces qui sont publiées, la première, le labyrinthe de Crète, en 1736, et les métamorphoses de Protée et les guerres entre le Percy et la Marjolaine en 1737. Et trois autres pièces seulement sont indiquées comme manuscrits avec la lettre M, les lettres MS après leur titre, Amphitryon, Don Quichotte et Phaéton. Donc on a en 1741 l'attribution de six de ses œuvres à ce Antonio José da Silva, né à Rio, avocat à Lisbonne, étudiant préalablement à Coimbra et qui est reconnu comme ayant du génie, ayant du talent, du génie pour la poésie comique. En 1744, les trois ans plus tard, les œuvres sont publiées, ces six œuvres, avec deux autres, Les Opaïdes ou La vie d'Ésope, et l'autre qui s'appelle Les Enchantements de Médée. Ici, les six plus deux œuvres sont publiées dans un volume dont le titre est Théâtre comique portugais, Teatro Comico Português. Le nom de l'auteur n'apparaît pas sur la page de titre de cette édition des six œuvres, mais elle peut être aisément déchiffrée dans un poème acrostique ou acrostiche qui termine la préface dirigée au lecteur sans passion, au lector desapasionado, puisque les premières lettres de 20 vers de deux décimas, qui est une forme poétique classique, divers, ici les 20 lettres qui commencent chacun des vers, lorsqu'on les lit verticalement, se lise Antonio José da Silva. Alors donc la question donc est claire, la pièce de Don Quichotte de 1733 a été attribuée dès 41 dans la Biblioteca Lusitana à Antonio José da Silva et en 1744 elle fait partie avec sept autres pièces d'un volume qui rassemble huit comédies ou opéras de Antonio José da Silva. Donc la question qu'il faut poser pour terminer cette analyse aujourd'hui, c'est qui était Antonio José da Silva en 1733. Il est possible de suivre la vie et le destin tragique de da Silva grâce, comme je l'ai dit, aux deux livres magnifiques de Nathan Wachtel, l'un « La foi du souvenir » et l'autre « La logique des bûchers ». Comme le dit la Biblioteca Lusitana, Antonio José da Silva était né à Rio de Janeiro en 1705, dans une famille, et ça la Biblioteca ne le dit pas, de Christians Novos, de nouveaux chrétiens, c'est-à-dire de ces familles juives converties de force au catholicisme, au christianisme en 1497, lorsque le roi de Portugal décide une conversion universelle de ses sujets. Seuls ceux qui quittent le royaume ne seront pas considérés comme nouveaux chrétiens. Ce qui était cinq ans ensuite redoublé, ce qui était devenu en 1492 en Espagne, avec l'obligation de conversion des Juifs cette même année de la reprise de la totalité du territoire espagnol par le roi de Castille et d'Aragon, et là aussi la conversion forcée des populations musulmanes qui restaient sur le territoire espagnol. Et beaucoup de ces nouveaux chrétiens portugais ont émigré au début du XVIIe siècle pour le Brésil. Sans doute parce que là, on touche à des thèmes absolument essentiels. Ces nouveaux chrétiens ont toujours été suspectés d'une fausse conversion ou du maintien derrière les apparences de la conversion, c'est-à-dire du respect des rites du catholicisme, du maintien de l'obéissance à ce que les textes désignent comme la loi de Moïse, c'est-à-dire aux croyances et aux rites du judaïsme. Et du coup, le Brésil colonial permettait sans doute une moindre pression, un moindre contrôle sur cette population toujours suspecte d'être non pas des nouveaux chrétiens, mais des mauvais chrétiens, ou d'avoir persévéré dans la religion juive. Et c'est ce qui advient, cette suspicion transformée en dénonciation, à la famille d'Antonio José da Silva en 1711. Son père, sa mère, une partie importante de sa famille sont dénoncés aux familiers de l'Inquisition qui se trouve au Brésil pour la pratique, la persévérance dans la pratique de rites judaïques, c'est-à-dire des jeûnes rituels, soit dans le cours de l'année, soit dans le cours de la semaine, les prohibitions alimentaires, des interdits alimentaires, en particulier sur le porc, mais pas seulement, et puis d'autre part, la pratique du Shabbat, du samedi, avec le changement de vêtements, les vêtements propres, et puis d'autre part, la préparation de la maison, elle aussi en état de propreté à partir du vendredi soir. Et donc tous ces indices sont perçus par ceux qui veulent dénoncer pour une raison ou une autre, soit des intérêts sociaux immédiats, soit la dénonciation de fausses conversions, sont retenus comme étant les éléments qui permettent de faire accuser de maintien dans le judaïsme de familles ou d'individus nouveaux chrétiens. Et comme l'Inquisition portugaise n'a pas de tribunal au Brésil, à l'inverse des tribunaux de l'Inquisition espagnole qui existent dans l'Amérique, dans la colonie, à Lima, à Mexico, à Cartagène des Indes, les accusés, nouveaux chrétiens brésiliens, portugais mais installés au Brésil, sont transportés par convoi maritime à Lisbonne. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui advient à la famille d'Antonio José da Silva qui est incarcéré à Lisbonne en octobre 1712. Vous voyez que lui a 7 ans à ce moment-là. Et le père João, la mère Laurença, confesse le retour à la loi de Moïse. Comme il était requis par l'Inquisition, dénonce de très nombreux membres de leur famille ou voisins. Et Nathan Vachtel montre la mécanique de ces dénonciations qui sont très souvent liées au fait que les accusés savent que d'autres ont déjà été arrêtés et que donc de dénoncer ceux qui sont déjà arrêtés n'est pas que finalement faire arrêter de nouvelles personnes. Donc il y a des listes impressionnantes de dénonciations, ce qui est un des objectifs de l'Inquisition, d'obliger les accusés à dénoncer ceux qui partageraient supposément leur rite et leur croyance. Et le père et la mère d'Antonio José da Silva, le 9 juillet 1713, dans un auto da fé, sont, comme le dit les formules, réconciliés avec l'Église, puisqu'ils ont avoué leur retour au judaïsme et leur volonté de réintégrer l'Église catholique. Ils sont condamnés à la confiscation de leurs biens, ce qui était une des premières mesures prises par l'Inquisition. Ils sont condamnés aussi à porter ce que les textes désignent comme habitu penitentiaire, l'habit pénitentiel, le San Benito, les jours des fêtes catholiques et les dimanches. Et c'est le premier rencontre, si on peut dire, entre Antonio José da Silva, âgé à l'époque de 7 et 8 ans, et l'Inquisition, avec ce premier procès fait à ses parents et à une grande partie de sa famille, et cette première réconciliation avec l'Église, qui est en fait l'abjuration de retour à la loi de Moïse et l'acceptation de cette condamnation à l'habit pénitentiel et à la confiscation des biens, et surtout avec la menace, évidemment, en cas de retour à la loi de Moïse, d'être considéré comme relapse, et dans ce cas-là, la peine qui est prévue par l'Inquisition, ou plutôt par le pouvoir politique, est celle de la mort. La deuxième rencontre, et qui fait la trame un peu du film de Azulay, au Judéo, l'histoire d'Antonio José da Silva, est en 1726, et là le concerne plus que directement, dans la mesure où la mécanique se reproduit, c'est-à-dire qu'une de ses cousines, qui était la fille de la sœur de sa mère, Brit Scutinio, est dénoncée à l'Inquisition par celui qui était son fiancé, après même que des bans de mariage aient été publiés. Et le dénonciateur, Luis Terra Soares, était un ex-étudiant de Coimbra, qui connaissait Antonio José da Silva et qui, sans doute, était lui-même pour partie un nouveau chrétien, un nouveau chrétien, et qui s'est inquiété de son engagement avec Brita Scutinio, et finalement, la menace pouvant peser aussi sur lui, a dénoncé sa fiancée, qui était déjà dans un processus de mariage. Du coup, comme souvent, à partir de l'arrestation de Brita Scutinio, c'est l'ensemble de la famille qui est arrêté. Et Antonio José da Silva est arrêté avec sa mère, sa tante, Isabel Cardoso Coutinho, ses deux frères, il a deux frères, Baltazar et André, et de nombreux cousins. Et là, on peut suivre aussi le procès à travers les livres de Nathan Vachtel, et l'on voit qu'il confesse son retour à la loi mosaïque, dénonce d'autres parents, mais se nie à dénoncer sa propre mère. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est torturé à ce moment-là. Comme le montre Vachtel dans La logique des bûchers, la torture n'est pas systématique par l'Inquisition. Elle n'est pas employée lorsqu'il y a une certitude, c'est-à-dire lorsque la certitude d'un aveu complet est reçue par les inquisiteurs. Il n'y a pas de nécessité de torturer. La torture apparaît lorsqu'il y a cette suspicion, évidemment très fréquente, que les condamnés ou les accusés n'avouent pas la totalité des pratiques rituelles ou des retours à la loi mosaïque qui sont les leurs, et surtout ne veulent pas donner les noms des personnes les plus proches dont les inquisiteurs suspectent le retour aussi à la loi mosaïque. Et c'est les moments dramatiques dans ces textes des procès qu'après des dénonciations massives, le refus, par exemple, là, dans le cas d'Antonio José da Silva, d'ajouter sa propre mère à la liste, sans doute parce qu'il sait que normalement, si elle est à nouveau condamnée, elle sera condamnée comme relapse et pourrait être brûlée. Et c'est pour cela qu'il est torturé avec cette trace de cette torture sur l'acte d'abjuration, qui est un acte qui renverra à l'histoire de l'imprimé, puisque ce sont des actes imprimés où seuls sont laissés en blanc le nom de l'accusé et le nom du pape régnant, et une formule finale qui doit être la signature de l'accusé. Donc dans les actes de abjuration, on a cette formalisation imprimée d'un texte qui est pour tous le même, avec simplement les noms propres et l'indication, la marque de l'individu qui sont laissés en blanc. Et dans le cas de cet acte d'abjuration de Antonio José da Silva en 1726, il est écrit qu'il n'a pas pu signer, mais que c'est un de ses curateurs qui a signé pour non poder assinar por causa de tormento, pour ne pas pouvoir signer à cause de la torture. Lui, donc, est réconcilié avec l'Église, avec les mêmes peines que ses parents précédemment, porter l'habit pénitentiaire, la confiscation de tous les biens, et recevoir une instruction chrétienne. Et c'est là que se situe le lien entre la pratique du théâtre et ce trajet, cette trajectoire de vie obsédée par l'Inquisition, puisque, avocat comme son père, il commence une carrière littéraire et écrit les œuvres dont on a déjà parlé. Avec cette question du genre de ses œuvres, puisque dans la Bibliotheca Lusitana, il est parlé de poésie comique, mais lorsqu'en 1744 est publié le Teatro Comico Portugais, qui sont 8 œuvres d'Antonio José da Silva, le sous-titre dit « Colessant das operas portuguesas », représenté dans la maison du théâtre public du Beiro Alto de Lisbonne. Donc les parties chantées, les parties musicales font que les œuvres sont déjà désignées comme des opéras. Et le genre mixte, finalement, de comédie et opéra est là reconnu. On sait qu'à partir d'un certain moment, que les musiques pour les parties chantées ont été composées par un compositeur qui s'appelle Antonio Teixeira et qui a composé les airs et les chœurs de Médée, des Protées, d'Amphitryon, du Labyrinthe de Crète, on ne sait pas pour le Don Quichotte, si déjà Teixeira collaborait avec Antonio José da Silva. Ces 8 œuvres, poésie comique et opéra, à la fois, ne sont pas les seuls écrits d'Antonio José da Silva. Et c'est que lorsqu'on prend dans les éditions de la Bibliotheca Lusitana, celle de 1741, puis son supplément de 1759, que l'on voit se dessiner un profil d'auteur qui déborde ce pièce écrite pour les marionnettes du Beiro Alto et un profil d'auteur qui situe Antonio José da Silva dans la familiarité avec un certain monde nobiliaire et aristocratique. En 1736, sont publiés sous son propre nom dans 2 anthologies poétiques, 2 de ses poèmes, et qui démontrent des liens avec les mondes nobiliaires ou aristocratiques. Le premier poème est un poème qui est publié dans une anthologie qui a pour titre Accentus saudadosus da musas portuguesas, les accents mélancoliques ou nostalgiques des muses portugaises. Ce poème d'Antonio José da Silva, donc 3 ans après les premières opéras du Don Quichotte, est une glose à un sonnet de Camões qui exprime comment le Portugal a les sentiments du Portugal après la mort de sa belle infante, la Senhora Dona Francisca. Donc c'est un poème qui fait partie d'une anthologie de déploration. Les muses portugaises sont pleines de mélancolie ou de tristesse. Saudadosas, parce que est morte l'infante. Donc on a là un poème très lié avec le monde de la monarchie, le monde de la cour, le monde de l'aristocratie. Et d'autre part, la même année, est publié sous son nom, Antonio José da Silva, un romance héroïque, qui est une louange pour un poète dont les œuvres sont rassemblées dans un volume appelé La Muse Puérile, Musa Puérile, et cet homme est João Cardoso da Costa, lui aussi lié au milieu de l'aristocratie et de la cour. Donc il y a là une figure de Antonio José da Silva comme déjà présent dans un monde lettré et un monde d'élite qui lui permet donc de publier sous son nom des compositions poétiques. Les opéras ne le sauront pas avant, même celle qui a été publiée avant l'anthologie du Teatro Comico Português, peut-être parce que le genre est un genre assez bas, le théâtre des marionnettes, et que donc il circule de manière assez spontanément anonyme, comme beaucoup de pièces de théâtre. Je dis ça parce qu'on a pu commenter l'idée que c'est peut-être parce qu'il était Novo Cristão, parce qu'il avait subi ce procès de 1726 devant l'Inquisition, que les pièces étaient anonymes par prudence ou par dissimulation. Ce n'est pas une preuve absolue dans la mesure où, d'une part, des poèmes sont publiés sous son nom, mais des poèmes qui sont d'un genre plus noble, une glose ou un romance, et d'autre part, dans des anthologies qui elles-mêmes sont liées avec le pouvoir ou avec des milieux nobiliaires. Donc, l'anonymat des 3 pièces de théâtre que j'ai citées publiées avant l'anthologie des 8 pièces, des 8 opéras, peut avoir des explications purement littéraires et non pas nécessairement liées avec l'identité sociale d'Antonio José da Silva. Là, en 1759, dans une réédition, donc un peu tardive, de la Bibliothèque Lusitana, on attribue d'autres œuvres à Antonio José da Silva, mais qui, elle aussi, le pourrait situer dans un univers à la fois élitaire. Il y aurait, par exemple, une Zarzuela Epitalamica, une de ces formes opératiques qui aurait été écrite pour les mariages des princes du Brésil, c'est-à-dire, en fait, le fils de João Quinto du Portugal et la fille de Felipe Quinto d'Espagne. Cette pièce s'appellerait Amor vencido de amor, donc composition en castillan pour une circonstance tout à fait officielle, le mariage des infants. Et on lui attribue aussi, peut-être discuté dans la mesure où cette attribution est fondée sur cette mention de la Bibliotheca Lusitana et sur une mention sur le manuscrit qui en a été conservé, une comédia, mais une comédie très catholique en castillan, qui serait El prodigio de Amaranto San Gonzalo, c'est-à-dire une pièce dans laquelle est une célébration d'un des saints importants du Portugal. Ce serait donc la preuve à la fois d'une inscription dans le milieu, pour se faire reconnaître à l'intérieur du monde catholique, et pour d'autre part, pour le premier des 2 textes que je viens de citer, une relation avec le monde de la cour. Alors pour terminer, en enjambant les œuvres composées pour le Bero Alto, qui seront avec le Don Quichotte l'objet de la troisième et dernière, du dernier séminaire sur Antonio José da Silva, il faut terminer l'histoire, c'est-à-dire dramatiquement. En 1737, donc malgré tous ces liens qui pouvaient le lier avec l'autorité ecclésiastique, le monde de la cour, des nobles, de l'aristocratie, Antonio José da Silva est arrêté une autre fois, donc la deuxième pour lui, par l'Inquisition, avec sa mère, Leonor Maria de, avec sa femme, Leonor Maria de Carvalho, sa mère, et d'autres parents, après, dans ce cas-là, la dénonciation de son frère, André, qui avait d'ailleurs épousé la sœur de sa propre femme. On voit qu'il y a un milieu des familles conversa ou des familles de nouveaux chrétiens qui est très endogamique, avec des unions croisées. Une exception, c'est l'autre frère, Balthazar, qui a épousé une fille de vieux chrétiens, et qui d'ailleurs sera moins inquiété par l'Inquisition, en particulier dans cette affaire de 1737. Il y a une double dénonciation qui a créé ces arrestations. D'une part, l'arrestation une dénonciation d'un jeune homme dont la mère était accueillie chez le frère André, le frère d'Antonio José, et qui lui-même était un nouveau chrétien, il s'appelle le Samoens, et toujours cette anxiété de pouvoir être accusé qui fait et qui conduit souvent à dénoncer prioritairement quelqu'un de façon à montrer à l'Inquisition sa bonne volonté et sa fidélité au principe de l'Église. Donc une dénonciation de André et de sa famille comme étant un milieu de judaïsants, et en tout particulièrement pour la préparation d'un jeûne rituel qui correspondait au jeûne du grand jour, du 5 qui tombait cette année-là, 1735, le 5 octobre. Donc il dénonce les préparations de ce grand jeûne qui va être célébré dans la famille de André da Silva et de sa femme, et donc comme la mère des frères habite là, de la mère et finalement de Antonio José lui-même. Antonio José lui-même étant au cœur d'une seconde dénonciation qu'il a voulu dans un certain sens anticiper, puisque c'est lui qui s'est rendu à l'Inquisition, qui était la dénonciation d'une esclave de la mère. De sa propre mère, une esclave africaine qui dénonce la famille comme judaïsante. Il y en a tout un élément que l'on peut suivre dans le procès qui non seulement est présent dans le livre de Nathan Vachtel, le premier, La foi du souvenir, mais dont les actes ont été pratiquement publiés, d'ailleurs avec une petite transformation qui est de donner comme si c'était des interrogatoires en style direct, ce que dans les sources on trouve toujours comme « a répondu que »,« a dit que », par Claude-Henri Frêche, dans un livre publié en 82 par la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris, et qui s'appelle « Antonio José da Silva et l'Inquisition ». Et l'ensemble des documents de ce procès, le deuxième et dernier, de Antonio José da Silva, sont rassemblés. Et l'on voit toute l'intrigue qui se noue dans ce monde où certains des domestiques sont soit des esclaves africains arrivés du Cap-Vert ou arrivés d'Angola, soit des anciens, des vieux chrétiens, et qui sont toujours des dénonciateurs potentiels dans une situation, par exemple, de conflit familial, ce qui est le cas pour cet esclave noir qui a une violente altercation avec sa maîtresse, la mère da Silva, ou d'autre part, dans des situations pour se faire voir de manière très positif par les autorités ecclésiastiques. Donc, Antonio José da Silva, dans ce cas-là, est enfermé pendant 2 années, avec cette sorte de paradoxe ironique que c'est le moment où on représente au théâtre du Bairro Alto son dernier opéra, Au précipice de Faeton, le précipice de Faeton. Et à l'inverse de 1726, peut-être parce qu'il connaît le sort qui est réservé au relapse, il nie à tous les moments, dans tous les interrogatoires, le retour, sous quelque forme que ce soit, à la loi de Moïse, une sorte de constance dans cette récusation des accusations. On voit la mécanique complexe du procès et qui entraîne avec ces négations, puisque en fait les inquisiteurs sont persuadés, à cause des dénonciations, qu'il y a effectivement pratique judaïsante dans la famille des Da Silva, pour pouvoir nourrir le dossier d'accusation, et en récusant le témoignage de l'esclave, non seulement parce que son statut rend difficile de croire sa parole, mais aussi parce que les conflits familiaux peuvent avoir conduit à une fausse dénonciation. Entre parenthèses, on voit la présence des esclaves noirs africains dans les grandes villes européennes, ce qui est une réalité qui parfois a été oubliée. Et ici, les familles portugaises, nouveaux ou anciens chrétiens, possèdent ces esclaves africaines qui ont été amenés depuis les îles du Cap-Vert ou bien depuis le Mozambique ou l'Angola. Pour s'assurer de la culpabilité, l'Inquisition a 2 techniques. L'une qui est de faire observer les emprisonnés à partir de trous dans la mur d'une cellule voisine. Il y a des rapports extrêmement détaillés de ces familiares de l'Inquisition qui observent les faits et gestes durant toute la journée des incarcérés, et c'est une des raisons qui va perdre Antonio José da Silva, puisque les observateurs rapportent qu'ils respectent des jeûnes rituels qui ne sont pas ceux des fêtes chrétiennes, mais qui sont ceux de la semaine ou des fêtes juives. Et il en conclut qu'il est judaïsant. Évidemment, toute la discussion est de savoir pourquoi le refus de nourriture, si le refus de nourriture est lié directement avec la loi, le respect des rites, des fêtes juives, ou si elle a de toute autre raison, purement personnelle. Mais interprètes de leurs propres observations, comme ils le disent plusieurs fois, ces informateurs situés dans les carcères, des vigies, ces cellules où on peut observer à l'intérieur de l'autre cellule, en concluent qu'il a respecté au moins par 5 fois les jeûnes rituels juifs. Et la deuxième technique de l'Inquisition, c'est de faire entrer dans la cellule ce que l'on appelle un mouton, quelqu'un qui va être un espion, et dans 2 cas qui successives, ces moutons entrés dans la cellule, ces espions entrés pour partager l'espace d'Antonio José da Silva, vont non seulement dire qu'ils respectent, ou du moins eux le suspectent, les jeunes juifs, mais aussi qu'ils n'observent que très peu et très rapidement certains gestes catholiques, comme par exemple s'agenouiller à l'Angélus et réciter l'Angélus, et pour le second d'entre eux, un jeune soldat, qu'il se moque de lui quand lui, le jeune soldat, récite ses prières catholiques et qu'à plusieurs fois, il lui a confirmé qu'il fallait demeurer dans la loi de Moïse. Et c'est sur la base de ces déclarations, soit des rapports écrits, puis confirmés oralement des observateurs, soit les dépositions à plusieurs reprises des 2 prisonniers qui étaient tous les 2 nouveaux chrétiens qui avaient été réconciliés avec l'Église, finalement, le 11 mars 1739, il y a un procès verbal de condamnation de Antonio José da Silva, et ce, malgré la présence de 4 témoins qui ont certifié, trois dominicains et un augustin, qu'il était un bon catholique, qu'il allait à la messe, qu'il se confessait, qu'il communiait, et que dans toutes leurs quatre dépositions, ces hommes d'église, un frère augustin et trois dominicains, confirmaient en disant qu'ils ne pouvaient juger du fort intérieur qu'extérieurement, mais en affirmant qu'ils croyaient que cet extérieur correspondait à une véritable croyance, Antonio José da Silva se comportait comme un bon catholique. Malgré ces quatre témoignages, l'Inquisition se fondant sur les dénonciations, les observations et les dépositions des deux espions introduits dans la cellule de Antonio José da Silva, en 1739, le condamne. La condamnation est « C'est pourquoi l'accusé, en sa qualité d'hérétique, d'apostat de notre sainte foi catholique, coupable, menteur, entêté et relapse, doit être relaxé et remis à la justice séculière. » Le relaxe n'est pas la libération, c'est le fait de la condamnation et de la remise à la justice séculière. Il a encouru la sentence d'excommunication majeure et la confiscation de tous ses biens au profit du fisc et de la chambre royale, outre les peines prévues par le droit contre de telles fautes. Il y aurait lieu de le considérer déjà comme hérétique à partir du mois d'avril 1738. Et là, c'est la remise au bras séculier, c'est-à-dire les peines prévues par le droit. L'Inquisition, elle, juge sur des choses de l'excommunication et la catégorisation de convitu negativo pertinas et lapso, nos crimes de heresia et apostasia. Donc, hérésie, apostasie, avec la conviction, l'entêtement, la persévérance et le relapse dans ce crime. Et la remise au bras séculier, la peine prévue par le droit, c'est évidemment le fait d'être brûlé, ce qui sera le sort d'Antonio José da Silva le 16 octobre 1739, donc avec une période assez longue entre la condamnation de mars et l'autodafé d'octobre, dans lequel sa mère, son frère André, sa belle-sœur et sa tante sont une nouvelle fois réconciliés avec l'Église, et ce, d'une manière un peu bizarre, puisqu'ils ne sont, bien qu'ayant été condamnés déjà et considérés possiblement comme relapse, néanmoins que la mort ne l'aurait pas infligé. Lui, il est brûlé, mais avec la grâce qui lui est faite d'être étranglé avant d'être brûlé, ce qu'on appelle « queimar de garrote ». Et d'où là ma dernière question qui ouvrira le cours dans 15 jours, c'est-à-dire comment penser d'une part ce qu'est-elle au fond la croyance de Antonio José da Silva, c'est une question que pose Nathan Vachtel, dans la mesure où il y a des témoignages proprement contradictoires qui sont rassemblés dans les dénonciations, dans les observations et dans les dépositions entre les témoins à décharge, quatre hommes d'église, et d'autre part, ces observations incertaines et qui peuvent être suspectées, toutes, des dénonciateurs et aussi des observateurs et espions à l'intérieur même de la prison. Très grave, puisque d'une part, elles sont celles qui permettent de dire qu'il a obéi à des jeunes rituels juifs dans la prison. Donc il ne s'agit plus d'une accusation de quelque chose qui aurait été fait auparavant de la dénonciation et de l'arrestation, mais d'une persévérance, de là les mots négatifs ou pertinaces, dans la prison elle-même, et d'autre part, en particulier avec les dépositions du deuxième espion, le jeune soldat, le fait qu'il y a chez lui une moquerie de la prière catholique, un respect très superficiel des rituels catholiques lorsqu'ils les respectent, c'est-à-dire s'agenouiller à l'Angélus et en même temps une impiété, une insistance pour que les deux compagnons de cellule persévèrent dans la foi mosaïque. On a donc là une première question sur l'ambivalence, l'ambiguïté, l'incertitude de cette croyance qui peut peut-être ne pas être résolue. Et la deuxième question qui nous ramènera au thème même du cours, c'est est-ce qu'il est possible de déceler à l'intérieur des productions littéraires d'Antonio José da Silva, à commencer par la première opéra, le Don Quichotte de la Manche, des traces de cette expérience, de cette trajectoire de vie et de cette relation profondément ambivalente et contradictoire, peut-être avec les deux fois, la chrétienne et la juive, mais aussi avec le monde des autorités dans la Lisbonne du début du XVIIe siècle. C'est pour ça que nous entrerons dans le Don Quichotte lui-même pour essayer de répondre, sinon à la première, mais peut-être de nous approcher de la deuxième de ces questions. Bien, merci.